Bonjour à chacun, bienvenue. On est content de vous voir ici, mais bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent derrière un écran. Certains sont peut-être venus avec du soleil dans le cœur, comme il y avait ce matin, ou avec des nuages, comme ils ont l'air d'être en train de venir. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est la bienveillance de Dieu à travers toutes les circonstances que nous traversons. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous invoquons ta présence parmi nous ce matin. Que ta présence se fasse sentir à chacun d'entre nous. Que ton esprit nous inspire, nous permette d'être des instruments aussi de ta bienveillance dans ce monde. Amen. Dans ce culte, nous aurons un message de Philippe Anchaud. Merci aussi aux chanteurs qui, un peu au dernier moment, ont accepté de se joindre pour animer ce culte. Et comme vous l'avez sans doute su par les informations, il y aura un forum à l'issue du culte. On est dans un temps d'incertitudes diverses, d'imprévus. J'étais ce printemps, j'étais dans un voyage au Laos, puis justement j'écrivais à mes amis que voilà, ici, là-bas, quand je suis là-bas, on a le programme qui change deux fois par jour. Puis en Suisse, on a l'habitude que tout soit plutôt réglé comme du papier à musique. Puis là, on est en train d'apprendre à vivre avec pas mal d'incertitudes, d'imprévus, de projets qui changent. On en a un ce matin d'imprévu. On était censé avoir un temps de prière pour Charline. Charline Semon, qui prévoit, mais dans l'incertitude, de partir une année en Afrique. Et puis, elle est toujours dans l'incertitude. Puis d'autre part, son fiancé a perdu son papa, qui est un des envoyés de l'AFRE, de notre famille d'église, à La Réunion. Ils étaient allés voir ce papa malade à La Réunion cet été, et puis voilà, maintenant le décès est arrivé et Charline est avec son fiancé dans, je crois, l'église de la Colline. Alors on pourra penser à elle, entre autres, dans un petit moment d'intercession qu'on aura après le message. Et puis hier j'avais, je vous disais, j'étais au Laos, les imprévus, moi je suis rentré un peu au dernier moment, et mon ami, le pasteur laotien qui était avec moi, il y est toujours. Donc son voyage de un mois a abouti à un séjour de 6 mois, ou 7. Il n'est pas encore sûr quand il va rentrer. Et puis son beau-frère qui est revenu en France cet été pour un mariage dans sa famille, qui lui travaille comme pasteur parmi les gens de son ethnie en Thaïlande. Il m'a appelé hier, j'étais chez Armand, puis il me parlait des incertitudes de son retour. Il ne sait pas quand il pourra rentrer. Mais il y a aussi d'autres incertitudes. Il y a des gens parmi nous qui ont perdu leur emploi ou qui ne savent pas trop ce qui va devenir de leur emploi. Et puis il y a aussi d'autres choses dans nos vies. Il y a parfois des brisures, des choses qui se cassent, des gens qui perdent un proche, ou bien des séparations qui sont presque peut-être aussi, ou sinon plus, douloureuses à vivre. Mais dans tout ça, le message de l'Évangile, c'est cette certitude de la bienveillance de Dieu. Alors nous aimerions avoir un temps de reconnaissance par le chant. C'est ce qu'on appelle la louange dans notre jargon interne. Voilà. Donc, on vous propose deux chants. Dans la maison du Père, nous sommes tous rassemblés. Alors, bien sûr, c'est ici, mais c'est partout, puisqu'on est tous enfants de Dieu. On est enfants de Dieu, on est frères et sœurs entre chrétiens, on est frères et sœurs en une humanité avec tous les gens qui sont sur notre chemin. Et puis un deuxième chant, ta bienveillance. Voilà.
La paix divine est sur tous ceux qui vont à lui, quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie. Lorsque la crainte est en chacun. que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Alors, notre pasteur a choisi des textes bibliques, je n'aurais pas osé. La Bible a des... C'est un livre extrêmement réaliste, et parfois très réaliste sur la violence, les injustices dans ce monde. C'est peut-être un livre qui, voilà, si les gens savaient ce qu'il y avait dedans, ils devraient le censurer, certaines choses. C'est un livre réaliste qui a aussi été écrit dans des circonstances pas toujours faciles. Et les textes, une bonne partie des textes de l'Ancien Testament, du Premier Testament tel qu'il nous est parvenu, sont des textes qui découlent d'une situation où le peuple d'Israël avait perdu tous ses repères, son pays, son temple, ses habitudes. Ils essayaient de garder leur culture et leur foi en Dieu. Finalement, il trouve dans cette parole de Dieu quelque chose qui est au cœur de leur foi. C'est plus dans leurs habitudes, c'est dans cette parole de Dieu qui apporte une espérance malgré les circonstances qu'ils traversent. Et c'est là qu'ils trouvent le sens de leur vie de peuple. Alors, je propose ces lectures.
Alors, je vais lire dans Jérémie 19, 1 à 13. Le vase brisé. Voici ce que le Seigneur déclara à Jérémie. Va avec quelques anciens, qu'il soit prêtre ou non, et achète un vase chez un potier. Ensuite, tu sortiras par la porte des pots cassés dans la vallée de Hinnom, où tu proclameras le message que je t'indique. Tu diras, « Roi de Juda et habitant de Jérusalem, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Je fais venir sur ce lieu un malheur qui produira l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. En effet, les gens de Juda m'ont abandonné. Ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu du sang d'êtres innocents. Ils ont aménagé un lieu consacré au dieu Baal pour y brûler leurs fils en sacrifice. Je n'avais pourtant rien commandé de pareil, je n'en avais même pas parlé. L'idée ne m'en serait jamais venue. C'est pourquoi, dit le Seigneur, les jours viennent où l'on nommera ce lieu non plus le Tophet ou la vallée de Hinnom, mais la vallée du massacre. En cet endroit même, je réduirai à néant la politique de Jérusalem et de Juda. Je ferai tomber ses habitants sous les coups de leurs ennemis, des gens impitoyables. Je laisserai leurs cadavres en pâture aux vautours et aux chacals. Je mettrai cette ville dans un état qui provoquera des sifflements d'horreur. Les passants en auront froid dans le dos. Ils seront horrifiés en voyant les dégâts qu'elle aura subis. Des ennemis impitoyables assiégeront la ville et la réduiront à une telle détresse, à une telle misère, que ses habitants en viendront à manger la chair de leurs fils et de leurs filles et à se dévorer les uns les autres. Puis tu casseras le vase en présence de ceux qui t'accompagnent et tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, je casserai ce peuple et cette ville comme on casse un vase d'argile. Une fois brisé, il est irréparable.
Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, versets 1 à 26, en pleine détresse, une raison d'espérer. Moi, je suis l'homme qui connaît le malheur sous les coups furieux de sa colère. C'est moi qui l'emmène et qui le fait marcher dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi seul, il continue à porter la main tout le jour. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os. Il dresse autour de moi comme un mur d'amertume et de peine. Il me fait habiter dans des lieux obscurs, comme les morts d'autrefois. Il m'entoure d'un mur épais pour que je ne sorte pas. Il rend pesantes mes chaînes. J'ai beau crier, appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des blocs de pierre. Il me fait perdre ma route. Il est pour moi comme un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il détourne mes chemins, il me déchire, il fait de moi une ruine. Il tend son arc et me place comme cible pour sa flèche. Il transperce mes reins avec les flèches de son carquois. Tout mon peuple rit de moi, il me ridiculise tous les jours par ses chansons. Il me rassasie d'herbes amères et m'enivre d'amertume. Il m'oblige à broyer du gravier avec mes dents. Il me piétine dans la poussière. Tu me rejettes loin de la paix. J'oublie ce qu'est le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Souviens-toi de mon malheur et de ma vie errante, amertume et poison. Je me souviens sans cesse et j'en suis accablé. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer.
Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur.
Bonjour à chacun, chacune. C'était hier à Jérusalem ce que nous avons lu. C'était hier à Jérusalem. Mais ce pourrait être aujourd'hui, dans tant de situations où le paysage intérieur se dessine en ombre et en brouillard, en nuit et en déchirure. Voici un homme qui marche au milieu des ruines. Chaque pas, chaque lieu réveille une mémoire douloureuse où s'entrechoquent des images, les images d'autrefois, des visages d'enfants baignés de soleil, des visages de places joyeuses aux mille bruissements de vie. Et maintenant, en surimposition, comme dans un halo irréel, ce qu'il voit. Des murs incendiés, des édifices dévastés, des rues silencieuses. Les rares passants marchent courbés sous le poids de l'épreuve. Où trouver alors les ressources d'une parole lorsque la mémoire est submergée par des images de dévastation? Notre homme s'arrête et son regard se fixe sur un horizon plus lointain. Et là, il dit quelques mots seulement. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. L'homme qui nous laisse l'exemple d'une espérance si forte, il s'agit du prophète Jérémie, n'est pas un doux rêveur. C'est un homme qui, toute sa vie, a affronté le poids des réalités concrètes, y compris lorsque ces réalités concrètes font le plus mal. Pendant des années, il s'est tenu solitaire face à un peuple qui préférait ses propres voies à celles du Seigneur. Il a connu l'hostilité, il a connu les complots contre lui, il a connu la prison, il a connu les années où il avertissait son peuple et où personne n'écoutait. Personne n'écoutait. Puis le moment terrible de la dévastation de la ville qu'il aimait tant. Jérusalem, envahie, saccagée, meurtrie par les Babyloniens. Et pourtant, là encore, au cœur de la dévastation, Jérémie choisira la solidarité concrète avec son peuple. Le chapitre 8 nous raconte comment Jérémie reste là dans la précarité et dans la mémoire quotidienne de ses jours de douleur et d'horreur. Pour lui, une vie exigeante, un combat solitaire, une immense sensibilité. Et maintenant, la solidarité avec ceux et celles qui avaient refusé de l'écouter pendant toutes ces années et qui, d'un coup, d'un seul, doivent faire face au désastre que lui, Jérémie, avait de toutes ses forces essayé de leur éviter. Voilà l'homme qui parle ici d'un encore pour son peuple. Le vase est brisé. Le projet d'une vie est fracassé. Voilà l'homme qui vient parler d'un encore pour son peuple. Tout sauf un rêveur, mais quelqu'un qui, tout en affrontant les réalités, a appris et nous apprend, je le crois, à regarder plus loin que ce que nous traversons maintenant, à regarder plus loin vers l'espérance. Quelles sont, pour Jérémie et pour nous, les ressources d'une telle attitude? Comment peut-on regarder plus loin que tout ce qui nous bouscule maintenant? Le prophète, c'est tout sauf une force de la nature. Ses complaintes l'attestent. Il est connu dans la Bible comme l'homme des lamentations, l'homme qui n'hésite pas à dire devant Dieu et devant les autres ses états d'âme. Rien n'est mis sous le tapis. Mais ses ressources, justement, il les trouve en Dieu, en ce Dieu qui s'est fait connaître à lui comme le Dieu des encore. Encore. Un petit mot plein de sève qui revient souvent sous la plume du prophète Jérémie. En particulier dans ce livret, au cœur de son livre, les chapitres 30 à 33, un livret qui vient dire l'espérance. Jérémie 31, 4 à 5. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. Tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras encore au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Encore. Impossible pour nous de dissocier ce mot de la foi qui est la nôtre. Avoir la foi, c'est croire dans le Dieu des encore. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi dans le Dieu des encore. Dans ce Dieu qui, lui, peut affirmer, il y aura encore. Là où, si nous étions seuls, nous serions réduits à dire, il n'y a pas, ou il n'y a plus, ou il n'y aura plus. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi dans ce Dieu qui s'est préparé, c'est encore pour notre vie. Avoir foi en un Dieu qui sait nous fixer des rendez-vous d'espérance. Car Dieu est plus qu'un Dieu qui parle. Dieu, c'est un Dieu qui veut être celui qui injecte de nouvelles ressources dans nos vies. Le Dieu des encore. J'aimerais lire dans Jérémie 31, les versets 2 à 9. Voici ce que déclare le Seigneur. Dans le désert, le peuple qui avait échappé au massacre est pardonné. Israël va donc pouvoir vivre tranquille. De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait, « Je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. De nouveau, je te construirai, cher Israël, et tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras ton joli tambourin pour prendre part aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes sur les collines de Samarie et les vignerons profiteront enfin de leur plantation. Un jour viendra où sur les collines d'Éphraïm, ceux qui veillent s'écrieront « Allons, montons à Sion auprès du Seigneur, notre Dieu. » Poussez des cris de joie pour Jacob à la tête de toute la terre. Lancez des exclamations à la tête de toute la terre. Faites entendre vos alléluia et dites, Seigneur, sauve ton peuple. Sauve les survivants d'Israël. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je les ramène du pays du nord. Je les rassemble des plus lointaines contrées. Tout le monde est là, les aveugles, les boiteux, même les femmes enceintes et les accouchées. Mon peuple revient au grand complet. Ils arrivent en pleurant et en suppliant, et je les accompagne. Je les conduis vers des ruisseaux pleins d'eau par un chemin facile, sans obstacle qui les fasse trébucher. Car je suis comme un père pour Israël. Et c'est Ephraïm, mon fils aîné. Il y aura encore. Cette parole-là, qui projette si fort dans l'avenir, a comme particularité première de faire référence à quelque chose qui a déjà existé. Ce n'est pas « un jour viendra », parce que si on dit « un jour viendra », tout est devant. Mais c'est « il y aura encore ». C'est pouvoir s'adosser à ce qui a été. C'est ainsi que Jérémie vient éclairer la réalité de l'exil que connaît son peuple par l'expérience du désert qu'a connu son peuple. On le voit là au verset 2. Dieu parle de son peuple et il rappelle cet événement fondateur de l'histoire d'Israël. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Pourquoi rappeler cela? Pourquoi faire référence à l'histoire passée? Eh bien, je crois que cette expérience vient nous rappeler qu'il y a certes des déserts dans nos vies, mais qu'il y a aussi des traversées de ces déserts, par la grâce et la fidélité de Dieu. Nous pouvons vivre des heures, des jours, des mois, des années arides, mais par la grâce et la fidélité de Dieu, il y a des traversées de ces déserts. Son amour demeure par-delà toutes les ruptures, toutes les surprises de nos vies. Le verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». Est-ce qu'on peut recevoir ça? Comment voyons-nous Dieu? C'est qui Dieu pour nous? Comment nous construisons-nous notre image mentale de Dieu? Est-ce qu'on arrive à recevoir ce matin, ne serait-ce que ça, ce petit verset 3? Je t'aime d'un amour éternel. Il est frappant de voir comment dans l'Écriture, sans cesse, ce que Dieu a fait, ce qu'il a montré de lui, est un appui pour lire les circonstances présentes que l'on connaît. Ce que Dieu a montré de lui est un appui pour regarder plus loin. Il y a là, je trouve, une force, une sécurité, un enracinement extrêmement solide, extrêmement fécond. Verset 4. Il y aura encore des tambourins. Il y aura encore des danses joyeuses. C'est le rappel de tous ces moments où Dieu a été le Dieu de la vie, où Dieu a été le Dieu de la joie, où sa lumière a été pour nous quelque chose de réel, d'intense. Et ce rappel ne doit pas nous pousser à la nostalgie, mais à l'espérance. Parce qu'il y a là une constante dans la Bible. Dieu authentifie par son action la parole qu'il nous adresse. Ce qu'il nous dit, pour la faire courte, il le fait. Ses premiers mots, lorsqu'il donne la loi, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Regarde, je te libère et en plus, je te donne ce qui te permettra de rester un homme, une femme libre. Sa parole dans le Christ incarné, c'est ce formidable engagement d'un Dieu qui vient, d'un Dieu qui se donne, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui restaure, d'un Dieu qui triomphe de tous les obstacles au matin de Pâques. Dieu est le Dieu de la parole qui s'authentifie dans son action. Ce qu'il dit, il le fait. Et c'est pour cela, je crois, que la Bible accorde tellement d'importance à l'histoire. L'histoire authentifie la parole et les promesses de Dieu. L'histoire est un vivier d'expériences dans lequel nous pouvons puiser, ne serait-ce qu'entendre « Je t'aime d'un amour éternel. Je te lâcherai pas d'une semelle. » Il y a là plus que des signes, à mon sens, mais une signature. Nous sommes invités à faire de cette histoire notre histoire, car c'est dans cette histoire que notre Dieu a choisi de se dévoiler, de se faire connaître pour assurer notre vie, notre foi. Il y a donc l'histoire biblique que nous avons intérêt à connaître. Et puis il y a l'histoire de notre propre vie, parce que nous portons nous aussi en nous quelque chose de la signature de Dieu. Si nous avons ouvert notre vie à l'action de Dieu, dans une relation vivante avec lui, alors nous découvrons aussi, et je l'entends souvent dans ce que vous partagez, nous découvrons aussi un Dieu qui agit, un Dieu qui s'authentifie par son pardon, par sa présence, par sa délicatesse, par son soutien, par sa bienveillance, par sa lumière, par sa fidélité, par les dons qu'il nous renouvelle. Dieu vient s'authentifier dans nos vies. Et je trouve précieux, vital même, de cultiver dans nos cœurs et dans nos pensées les moments forts où Dieu est intervenu en notre faveur. Dieu n'interviendra pas toujours pour nous de la même manière, mais là où notre expérience vient confirmer la parole, il y a un appui précieux à engranger. Le Dieu des encore ne nous laisse pas les mains vides face à l'avenir. Nous sommes pétris d'incertitudes, mais Dieu ne nous laisse pas seuls, parce qu'il est ce Dieu qui d'abord s'est donné et a donné. Mais dire il y aura encore, c'est aussi reconnaître humblement qu'il y a parfois des ruptures. Remarquez que Jérémie ne dit pas ici au peuple d'Israël, « Mais mon peuple, mon cher peuple, Dieu est toujours ton tambourin, Dieu est toujours ton chant, ta danse, ta réjouissance. » Non, il lui dit, « Tu auras encore des tambourins, des chants, des danses, des réjouissances. » Ce qui veut dire que pour l'instant, les chants, les tambourins et la danse n'ont pas lieu d'être. Ce qui laisse place pour l'instant à autre chose que les chants, les tambourins et la danse. Il y a là ce que l'on peut appeler une humilité de l'espérance qui fait du bien. Parce que son discours nous permet d'être vrai. Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'on n'a pas envie de chanter. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie de danser, des circonstances, des événements qui blessent, et parfois profondément, et parfois durablement. Moi, je trouve admirable ici que les paroles d'espérance qui nous sont servies ne soient pas des paroles qui nous écraseraient de leur poids de gloire alors que nous ne nous y retrouvons pas. Regardez comment Dieu parle humblement à son peuple, en lui disant, tu sais, il y aura encore. Plutôt que de dire à son peuple, mais je suis ton chant, t'as qu'à te réjouir, t'as qu'à prendre plaisir en moi, t'as qu'à redécouvrir qui je suis. Non, il dit, il y aura encore. Ce qui laisse un espace pour cheminer, tout en nous donnant une perspective, un horizon. cet encore-là prononcé par Dieu est sa manière de dire qu'il a vu, qu'il sait, qu'il respecte ce que nous vivons, nos luttes, nos combats intérieurs, nos brisements personnels. Il sait. Le Dieu qui parle ainsi, dans le respect des cheminements, c'est déjà le Dieu de Jésus-Christ, qui lui aussi est venu marcher à notre rythme. Nous devons apprendre à l'égard de ceux que nous côtoyons ces paroles d'encouragement qui respectent les cheminements et qui laissent un espace plutôt que d'imposer des vérités massives. Le Dieu qui permet ainsi les pointillés de nos cheminements ne coupe jamais le fil de l'espérance. Car dire « il y aura encore », c'est affirmer qu'il existe une continuité au-delà des ruptures et des luttes que nous connaissons. Et cette continuité, Jérémie tient à l'exprimer avec des mots très forts qui sont au présent. Ces mots au présent sont ceux de l'amour et de l'engagement inconditionnel de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je suis un père pour Israël. Voilà pourquoi je l'ai conduit à nouveau vers des torrents d'eau. Ce ne sont pas ici des présents de devoir pour Israël. Dieu n'est pas en train de marchander avec Israël en lui disant, les gars, si vous faites ce que je dis, si vous restez dans les clous, si vous montrez une surface lisse, tout va bien aller pour vous. Ce n'est pas ça l'engagement de Dieu. L'engagement de Dieu, c'est celui qu'il tient lui. C'est ce qu'il est, lui. Il y a là une continuité, malgré les événements parfois heurtés, qui font la trame de notre vie et la complexité de l'existence. Ce sont cet amour et cet engagement qui rendent possibles les encore de Dieu. Et cette continuité, c'est Dieu qui l'assume. C'est Dieu qui la prend à sa charge. C'est Dieu qui les porte. Ainsi, dire encore, c'est affirmer toutes les ressources de Dieu, toutes les ressources de Dieu, en face de nos situations. Encore, c'est encore une fois. L'image ici, c'est celle d'une trajectoire. Le Dieu des encore est capable de prolonger, de reprendre ce qu'il a commencé dans une continuité fidèle. Il est le Dieu des recommencements. J'aurai encore pitié. Il est aussi le Dieu des processus dont l'aboutissement demande du temps. Je te guérirai. Je panserai tes plaies. Des fois, on a cette idée, en tout cas moi, d'un Dieu qui, s'il est Dieu, devrait tout de suite cautériser ce qui sointe dans ma vie. Devrait tout de suite intervenir. Devrait tout de suite arranger les bidons. Quand Dieu dit « Je te guérirai, je panserai tes plaies », j'apprends qu'il y a des choses qui demandent du temps. Encore, c'est aussi par ailleurs. Et notre regard ici doit encore apprendre à considérer tout ce qui peut surgir latéralement, de côté. Le Dieu des encore, c'est pas seulement celui des lignes que l'on trace. Mais c'est aussi le Dieu de tous ces par ailleurs qu'il sait faire surgir dans notre vie. Il est important pour nous de ne jamais fermer notre horizon, de ne jamais limiter notre regard aux petites solutions, aux arrangements bon gré, mal gré, aux seules issues que nous voyons ou imaginons. Si Dieu existe, il va faire ça. Oui, mais il peut faire autrement. Il peut agir latéralement. Toute la Bible nous rappelle que les ressources de Dieu sont larges, que ses projets, ses pensées pour nous sont amples. Il peut faire surgir de bien des côtés ce qui contribue à faire réaliser son projet pour nous. Et encore, finalement, c'est aussi à nouveau à nouveau. Un trésor que cette expression, à nouveau. Quelque peu aplati par l'usage. Parce que à nouveau, ça évoque le neuf. Ça dépasse la répétition. Le Dieu des encore ne veut pas être pour nous un Dieu qui radote, un Dieu qui bégaye, mais un Dieu qui fait du neuf, un Dieu qui met un chant nouveau dans nos vies, porté par un amour qui sait se renouveler. Aussi, le prophète parle ici d'un Dieu qui sème une vie qui se renouvelle. Ça, c'est génial. Le Dieu des encore sème une vie qui se renouvelle. Moi, c'est de ces ressources-là, c'est de ce Dieu-là que je veux vivre. Rien de moins. Tout le reste, c'est de la garniture. Comme pour Jérémie, cela ne signifiera pas une vie lisse et sans aspérité. Cela ne signifiera pas non plus posséder toujours la pleine réalisation de toutes nos attentes. Les promesses de Dieu sont par leur fonction même appelées à être des paroles devant nous. Il faut parfois du temps jusqu'à leur accomplissement. C'est un temps que nous ne possédons pas, que nous attendons, et je sais que ça peut être difficile. Il arrive aussi que les projets de Dieu ne soient pas les nôtres, ou que Dieu ait pour nous d'autres apprentissages, d'autres enrichissements. Les encore de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Restons ouverts. Jérémie, pour être témoin d'espérance auprès du peuple de Jérusalem, a choisi de partager le sort de ce peuple. Il s'est laissé transformer par la douleur de ce peuple. C'est en prenant cette posture-là, solidaire de son peuple, qu'il a pu devenir pour eux un porteur d'espérance par ses paroles. Voyez la force de son témoignage dans les Lamentations. Il ne s'est pas soustrait à la douleur de son peuple. Il a goûté avec eux, comme eux, l'absinthe et le poison. Mais c'est à partir de là qu'il vient leur parler d'espérance. Et ces paroles peuvent rejoindre aujourd'hui encore, j'en suis convaincu, celles et ceux qui ont besoin d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen.
Philippe m'a rappelé qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai passé par un temps où je venais au culte, je n'avais pas envie de chanter. Voilà. Nous allons chanter « Dieu fidèle », un seul verset. J'aimerais vous inviter à un bref moment de prière et d'intercession en réponse à ce que nous avons reçu de cette parole, puis peut-être aussi une intercession, nous pouvons penser à Charline, nous pouvons penser au Liban qui a été durement touché, et personnellement j'y pense parce que je connais une personne que peut-être d'autres parmi vous connaissent, Catherine Murtada, qui est une envoyée de notre famille d'église et qui fait un magnifique travail là-bas. Et voilà, donc elle est au cœur de cette souffrance à laquelle ils essayent de répondre. Voilà. Des prières libres, courtes.
Le visa qu'elle attend pour partir en Guinée.
Oui, merci notre Dieu, parce que pour chacun de nous, pour ton Église, tu as encore des projets. Et donne-nous d'être, jour après jour, là où nous sommes placés, des porteurs de cette espérance pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Voilà, j'invite Johan, hein, je crois, venir nous faire quelques annonces.
Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça peut être aussi affiché ou pas du tout. Oui. Magnifique. Donc, pour les annonces, juste après le culte, le forum d'échange, on vous dira un petit peu plus après, sur deux sujets, le poste à 50% avec la candidature de Célina pour que le GRRP a conseillé, puis une deuxième partie aussi, de pouvoir s'exprimer sur cette période que l'on a vécue, pour dire ce que, au niveau du conseil et de l'équipe pastorale, ce qui a été mis en place, et puis savoir aussi comment ça a été perçu de votre côté. C'est important, c'est des moments où on n'a pas pu échanger. L'idée, c'est de ne pas faire long. Hein. Les cultes sont plus courts, on va se prendre une heure, si possible, pas trop dépasser. Donc jusqu'à midi. Ensuite, le caté reprend à partir de vendredi 11 septembre pour les 11-15 ans. Le vendredi 2 octobre, le colloque, et puis une formation qui est sur deux semaines différentes, le 30-31 octobre et 13 et 14 novembre, une formation sur résister d'une foi ferme qui est proposée par Porte Ouverte. Et il faut s'inscrire, les places sont limitées, donc inscrivez-vous, il y a, sauf erreur, quelques petits feuillets qui sont à l'entrée que vous pourrez prendre. Et puis encore une annonce pour dimanche prochain, on est à la recherche de 3 personnes pour l'accueil, donc ça serait bien de répondre à Anne Negrini pour 3 personnes pour l'accueil. Tu veux dire des mots?
De suite, après le culte, on va peut-être simplement bien aérer les locaux avant de reprendre avec le colloque. On a un petit quart d'heure, c'est ça? Le forum, merci. Ouais. Il me faut aussi vous annoncer le décès de la maman d'Hélène Itty. Les obsèques ont eu lieu jeudi en Belgique. Santosh, merci de dire encore à Hélène et à la famille notre plus vive affection, s'il te plaît. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Il y avait autre chose, pardon? Ah oui, bien sûr. C'est moi qui oublie ça.
J'invite Rachel et Nathan.
Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. On est là pour vous inviter à notre mariage qui aura lieu le 3 octobre à Vevey. Vous trouverez toutes les informations dans le faire-part et puis sur notre site internet, c'est rachel-nathan.ch. On mettra aussi toutes les informations concernant les mesures du Covid et tout ça. Et puis vous êtes donc tous invités à la cérémonie puis à l'apéro qui va suivre. Et puis on vous propose de favoriser le covoiturage pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà.
Alors, je vous invite à vous lever et je nous envoie dans cette nouvelle semaine avec cette parole de l'apôtre Paul en Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de tout. toute joie et de paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Que le Seigneur vous garde dans la paix, vous accorde de la joie. À chacun, chacune, une belle semaine et un bon dimanche. À bientôt.